Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 2 décembre 2025. Une émission inopinée qui n'était pas prévue, mais je sentais ce matin que voilà, il y avait besoin aussi peut-être de remotiver un petit peu les troupes et de remonter des morales qui pour l'instant sont en déroute, et on le sent hein, du côté de l'industrie crypto à part entière que petit à petit beaucoup sont en train de baisser les bras. Et peut-être qu'à court terme finalement c'est moins désastreux que ce qu'on pourrait l'escompter, et notamment avec une grosse information qui est parue ce matin et qui, je pense, pourrait rassurer quelque part le marché institutionnel. Au niveau du top 10, pas plus des statu quo, j'ai envie de dire, avec des performances qui sont à l'équilibre, on commence tout juste à repasser dans le vert, notamment pour Hyperliquid au-dessus des $30. On a 3% pour le WLFI, le projet de Trump, également 14% pour Rain, qui se trouve à la 39e place, 4% pour Aptos à la 49e, et on clôture le top 60, comme d'habitude, avec des capitalisations pour Atom Cosmos, Arbitrum, Filecoin autour du milliard tout pile des capitalisations qui, comme on l'a vu sur cette fameuse nuit du 10 au 11 octobre, sont assez virtuelles pour certaines. Du côté du 4 heures, après avoir de nouveau flush donc dans la nuit de dimanche à lundi, les open interest et les personnes qui étaient venues tout simplement longues, la zone des 90 à $92,000 en est revenue à 84, et pour l'instant c'est un double point bas qui tient, puisque le premier était autour de 80 000, et d'un point de vue de l'analyse technique, quand on regarde au niveau du RSI, on pourrait voir les premiers signaux de divergence. Donc le mieux qui puisse nous arriver en décembre, ça serait qu'effectivement dans ce marasme, dans ce marché complètement morose, on ait en effet le tout dans un crypto fear and greed, dans l'extrême peur, un rebond qui nous conduirait autour de 100 000, à grand maximum 108 000, mais voilà, les 108, j'y crois moyen. Déjà, les 100 000, ça serait un milestone pas dégueulasse pour décembre, je pense, et ce qui voudrait dire par la suite que c'est 2026 qui entérinerait la fin du cycle de 4 ans si jamais on repart à la hausse au printemps. C'est une saisonnalité qui parfois est favorable, ou bien on rentrera bel et bien dans la continuité du bear market comme on l'a eu tous les 4 ans depuis désormais 3 cycles, et on aura une année 2026 qui pourrait conduire, comme on l'a vu précédemment toujours en analysant un peu les zones techniques, autour de 50 000 à plus ou moins, on va dire, allez, $10,000 autour des 50 000, je pense que ça pourrait faire office de point bas. Donc aujourd'hui, on est toujours dans cet entre-deux où on avait quand même perdu 46 000 $ par rapport au top, puisqu'on est venu à 80 000 et le top était à 125-126. Ça n'est pas rien quand on regarde de là où on vient et là où on est aujourd'hui. Est-ce que lors d'un futur bear market, on peut aller à 50 000 voire en dessous? C'est tout à fait de l'ordre du possible également. Et il faut prendre en considération une information qui hier a encore plus crispé le marché crypto que ce qu'il l'était déjà, avec des facteurs exogènes, notamment on l'a vu avec le Japon, l'Asie, ça se grippe un petit peu, les taux, qu'ils soient courts ou longs, sont en train d'exploser du côté du Japon, donc adios le yen carry trade et l'argent facile et gratuit sur les marchés. Donc on avait déjà un peu cette tension avec un VIX qui avait rebondi d'une dizaine de pourcents, et hier on a eu donc le dirigeant actuel, puisque on parle souvent de Michael Saylor, mais finalement il a plus un rôle consultatif, voire d'influenceur pour les réseaux sociaux aujourd'hui, et surtout d'aller chercher des flux, d'aller convaincre des gens d'investir dans sa société et de petit à petit être dilué au niveau de l'actionnariat. Et donc hier, l'actuel dirigeant de stratégie, de micro-stratégie, en marge de Michael Saylor, a dit que par rapport au fameux MNAV, alors je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans une longue explication de vous dire comment ça fonctionne exactement, parce que c'est assez complexe dans la pratique, mais toujours est-il, il y a une zone de MNAV qui est autour de 1, qui est le moment où, par rapport aux actions qu'ils détiennent, en fonction de tous les bitcoins qu'ils ont en leur sein de micro-stratégie, on n'est plus sur un point d'équilibre positif, on repasse en négatif sous la zone du 1. Et à partir de là, cet actuel dirigeant avait l'air de dire qu'il pourrait être amené à vendre du bitcoin. Donc aujourd'hui, on a aussi Michael Saylor qui a fait un move en disant on crédite quelque part un peu une zone tampon de 1,44 milliards, quelque chose dans ces eaux-là, en cash, auquel potentiellement on ne toucherait pas, qui pourrait servir tout simplement s'il y a des personnes qui veulent sortir et qu'on a besoin de rembourser avant ces échéances de 2027, 2028, 2029. Donc théoriquement, on en a pour 2-3 ans d'air par rapport à MicroStrategy, mais le simple fait qu'il y ait eu cette information qui paraisse, et que beaucoup pensaient que ça n'arriverait pas de sitôt d'avoir le dirigeant actuel de Strategy qui vous dise que tout simplement simplement, si ça se gâte lors d'un bear market, peu importe qu'il soit court ou qu'il soit long, il pourrait être amené à vendre des bitcoins. Ça a crispé une fois de plus un peu plus les marchés. C'est pas franchement quelque chose auquel on s'attendait comme déclaration, en tout cas au court terme, et c'est ce qui hier a renforcé ce sentiment. Donc là, en l'état, par rapport à l'action de prix et par rapport à tout ce qui est sorti, si on n'a pas de cadavre additionnel comme d'habitude de cette fameuse nuit folle du 10 au 11 octobre où on a eu 20 milliards liquidés pour 1,6 million de traders qui se sont fait sauter complètement ce jour-là, voilà, on est plutôt pas si mal en effet pour le court terme, tout en prenant bien en considération, et on y vient au niveau de l'analyse technique, que d'un point de vue macro, on a perdu un grand canal parallèle ascendant qui a duré 3 ans, 2022-2025. On a perdu la moyenne mobile 50 hebdomadaire et on est désormais un peu prisonnier de ces deux bornes, comme on l'avait vu au niveau de l'analyse on-chain avec Crypto On-Chain Sapiens, au niveau du True Min Price et au niveau de la zone supérieure qui se trouve autour des 100 000 $. L'émission du jour est sponsorisée par Desblocks, donc on renouvelle notre confiance avec ce partenaire qui vous propose un compte avec un IBAN français. Vous avez un compte crypto qui est rattaché, non custodial, vous détenez vos clés privées, vous pouvez les exporter à tout moment. Ils ont une carte bleue qui vous permet de dépenser et prochainement, avec l'arrivée de leur token, d'avoir du cashback jusqu'à 10%. Donc, ce n'est pas encore en place, ça sera au cours du premier semestre 2026. Mais il y a de très belles choses qui arrivent pour Desblocks. Et vous avez également le petit coffre qui vous permet directement d'aller choper en USDC, en Ether ou bien directement en euros et en dollars. Ça va vous permettre d'aller chercher les rendements qu'il y a actuellement en DeFi. Donc pour Ether, on doit être autour de 2% et des brouettes, de 33% peut-être aujourd'hui. Pour tout ce qui était lié au dollar USDC notamment, on était à 5,33 ces derniers jours. Ça aussi entre 5 et 6%. Et du côté du dollar ou de l'euro, il va falloir regarder les taux actuels. Mais l'euro C, je crois, était autour de 2-3% ces temps-ci. Ce qui, au vu du taux aujourd'hui, notamment du livret A, nous permet quand même d'avoir des rendements qui sont sympas. Comme d'habitude, il y a bien entendu le risque de collatéral, il y a le risque de smart contract, de la DeFi, etc. Il n'y a pas de rendement sans aucun risque, bien entendu, mais ça en fait une super app aujourd'hui. Et vous avez le lien en commentaire et description pour nous soutenir. Vous avez 3 mois offerts sur le premium. Également, l'information que vous avez vu paraître donc ces dernières 12 heures à peu près, à compter du mardi 2 décembre, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. On a Vanguard qui était fondamentalement anti-crypto jusqu'ici et qui ouvre donc la plateforme de courtage à la négociation d'ETF, Bitcoin, Ether, XRP et Solana via un fonds mutuel axé crypto. Donc une très bonne nouvelle, ce qui va permettre à leurs investisseurs institutionnels et retail, 50 millions de clients dans l'entreprise, de bénéficier de ce genre de service. Alors c'est peut-être une fois de plus un peu un effet d'annonce, mais la bonne nouvelle c'est que même les anti, les anciens JP Morgan, les Vanguard, etc. JP Morgan, on parle de la plus grosse banque américaine. Hein. C'est vraiment la super banque. Après, en termes de flux et de capitaux, je n'ai pas vérifié, je ne veux pas dire de bêtises. On est certainement au total AUM en dessous d'un BlackRock. Mais aujourd'hui, c'est quand même des décisionnaires qui pèsent énormément dans la balance et dans ce que peuvent en penser justement les fonds et les différents institutionnels. Donc aujourd'hui, c'est encore une bonne nouvelle qui peut être justement a permis au marché crypto bien de se stabiliser sur une zone qui est un peu la pente glissante, puisque 2-3 semaines d'affilée, on clôture sous les 3000 milliards. On se raccroche à la branche ici des 2750-2800 où nous attendait la moyenne mobile 100. Mais pour l'instant, on est un peu au milieu de nulle part hein, dans cette zone d'un point de vue purement technique, si ce n'est que c'est le 0,382 de Fibo qui est l'arrêt principal si on reste en effet sur une trend haussière long terme. Haussière, elle l'est au long terme, mais à court et moyen terme, à partir du moment où en général on casse cette fameuse moyenne mobile à 50 semaines. Et c'est exactement ce qui s'était passé ici à l'époque. On avait travaillé longuement et on avait même essayé de la redépasser en avril 2022 avant de s'enfoncer complètement dans un bear market qui, pour 2022, a été un bear d'anthologie. Donc attention, ça prend toujours son temps, malheureusement, pour nous délivrer les dernières cartouches du bear market quand ça arrive. Ça prend plusieurs mois, plusieurs trimestres, ça ne se fait pas en une seule fois. On a eu la première baisse primaire là quelque part. Désormais, est-ce qu'on va réussir à se consolider justement entre 2700 et 3000 milliards et repartir à l'assaut en décembre des 3333 où se trouve la moyenne mobile 50? Et c'est exactement ce qu'on peut observer du côté de Bitcoin qui, lui, pareil, s'est arrêté au 0,382, 3 semaines d'affilée, moyenne mobile 100 à 83 400. On est aujourd'hui à 86,6. Le MACD est toujours en forte accélération baissière. Le RSI, lui, est en train, comme on l'avait vu hier, potentiellement d'essayer de nous faire un double creux ici autour des 35-36, ce qui pourrait correspondre à un début de rebond technique un peu plus important en direction en effet des 100 à 103 000 où nous attendra la moyenne mobile 50 exactement comme ça l'avait fait ici à l'époque. On avait bloqué en mars-avril 2022 et derrière c'était parti complètement à la cave. Donc j'ai pas de certitude aujourd'hui sur le fait que ça fasse ça, bien entendu, sinon ça serait trop simple. Mais il y a quand même, quand on observe le passé, pas mal de chances quelque part. C'est un jeu probabilistique qu'on aille dans ce type de scénario courant 2026. Si c'est l'inverse qui se passe, eh bien tant mieux. C'est pour ça qu'on reste exposé un minimum ou un maximum, puisque je sais que vous êtes toujours beaucoup de votre côté à rester profondément exposé au marché crypto. Et si vous y croyez pour du long terme, il n'y a pas de raison que votre théorie d'investissement change, modulo le fait que peut-être du côté des altcoins, il y a quand même une belle curation à faire. Mais en tout cas, voilà, on est rentré dans une phase où c'est quand même assez lisible quelque part quand on perd des zones clés comme celles qu'on avait perdues premièrement autour de 108 000 et deuxièmement autour de 100 000, de se dire je repasse boule, complètement boule, c'est-à-dire haussier, à partir du moment où on reprend 100 000 et a fortiori qu'on revalidera en termes de support et de résistance reprise la fameuse zone des 108 000 dollars. Donc aujourd'hui, voilà, on peut, pour ceux qui font du DCA à long terme, se fixer une fourchette où on se dit « Ok, comment je réagis si on revient jusqu'à 50 000 ?» Et notamment pour les snipers qui veulent à tout prix tirer leur cartouche que si le Bitcoin baisse de temps, etc. De même qu'il y en a qui se fixent des objectifs à la hausse où ils ne veulent pas prendre aucun profit, mis à part le jour où ça viendra spécifiquement toucher 150, 155, 200 000, etc. Il y en a qui ont des objectifs très long terme et c'est tout à fait quelque part louable et logique de se projeter comme ça sur plusieurs années, mais le court et moyen terme nous a démontré ces 15 dernières années du côté de BTC en tout cas qu'on avait quand même tendance à effectuer une certaine cyclicité. Et aujourd'hui, ce qui s'appuie sur des signaux externes de type la courbe de liquidité ou des choses dans ce style, je suis tout à fait d'accord, ça peut avoir et ça doit avoir son impact et son importance, mais ça reste de parier contre ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années vis-à-vis de quelque chose qui, à aujourd'hui, ne s'est pas encore passé. Donc, comme d'habitude, d'un point de vue purement statistique et des probabilités, j'essaie de prendre tout en considération et de faire le moindre mal quelque part par rapport à ce qui pourrait arriver à notre portefeuille, tout en se disant que oui, au long terme, on peut avoir quelque chose de très positif. Sinon, dans tous les cas, on ne resterait pas exposé au marché crypto si on pensait l'inverse. La Bitcoin dominance qui, petit à petit, est en train de remonter 60%, donc attention à ce que Bitcoin ne nous fasse pas, comme il aime bien le faire, que ça soit à la baisse ou à la hausse, nous faire remonter à nouveau cette dominance, ce qui aurait tendance à punir, comme d'habitude, les alts sur ce cycle. J'ai bien l'impression qu'on s'est fait punir et pas qu'un peu. Ether en tête de file qui bataille avec les 2800, mais voilà, on a la moyenne mobile 200 juste en dessous à 2450, le gros support autour de 2100-2150 comme vous le savez. Là pareil, c'est encore un peu trop tôt, mais on est en train de batailler avec une zone de RSI qui se trouve à 42, et pour Ether c'est une zone de démarcation qui par la suite souvent nous a conduit en bear market. Donc restons prudents à court terme, et c'est ce que je vous disais dans l'émission d'hier lundi, de ne pas se précipiter immédiatement du côté des et en payant tout à n'importe quel prix et en se disant « Ok, ça a déjà baissé de 75, 80, 90%. » Je vous rappelle que même un alt qui aurait baissé de 98%, s'il baisse à 99%, vous avez encore perdu entre 98 et 99%, 50% à nouveau. Donc ça, c'est pareil, ça paraît assez contre-intuitif, les pourcentages, et notamment les pourcentages qu'il faut reprendre à la hausse une fois qu'on a perdu X dizaines de pourcents. Mais je peux vous garantir que à partir de moins 30, moins 40%, ça devient très très compliqué par la suite de renverser la vapeur, et encore plus quand on rentre dans le territoire moins 70, moins 80, moins 90, moins 98, moins 99, il y a quasiment plus rien à sauver, et il y a très souvent quasi aucune chance de revoir vos petits, même en vous disant le fameux pas vendu, pas perdu. C'est une phrase qui ne devrait pas exister dans la bouche de l'investisseur avisé. Le DXY, donc, qui reprend un petit peu de force, 99.4 pour l'instant pour le dollar américain. On a le S&P 500 qui hier était dans le rouge, mais devrait réouvrir à nouveau, léger dans le rouge. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, puisqu'on est quand même en train de retravailler à nouveau à 2-3% des points hauts. Le RSI, le MACD, ça se cherche au niveau des oscillateurs. Donc pour l'instant, on n'est plus dans cette grande dynamique haussière qu'on a pu avoir pour le marché américain, et c'est ce qui, une fois de plus, me laisse un peu ce goût amer quant aux abords de 2026 et qui pourrait nous surprendre malheureusement. On a le gold de 4 200 $ l'once, donc on a eu une belle poussée hier sur ce lundi. On va faire un petit tour du côté des treasury companies et des minières avec un alt BG. Capital B du côté des PEA qui a perdu déjà 89% de sa valeur, qui a défendu le support autour de 68 centimes d'euros. Là, on est plutôt sur une fin de correction quand on regarde les oscillateurs, le RSI, le MACD. Est-ce que les 70 centimes vont tenir pour Capital B ex Alt BG? Voilà, c'est quand même quelque chose de très très dangereux, ça a glissé dans son portefeuille, mais qui, pour ceux qui sont rentrés en effet en juillet 2024, a offert la modeste performance de 7000%. Donc il y aura toujours, je pense, des gens pour venir y spéculer. Le reste, bon, pour Coinbase 460, pareil, moyenne mobile 50, moyenne mobile 100, on fait un petit peu la contraction entre le 0,5 et le 0,38 de Fibo. Est-ce que c'est trop tôt pour commencer un DCA? Je ne sais pas, mais ça apparaît quand même, si on se projette en effet sur un BTC qui pourrait nous dérouler un petit peu plus à la baisse, encore un peu haut en termes de capitalisation, et de même que Circle s'est refait pousser à la baisse après nous avoir offert récemment un rebond depuis les points bas de 65 $ en direction des 80 $. Donc là, en l'état, quand on regarde les treasury companies, quand on regarde Bitcoin, quand on regarde un peu tout ça dans son entièreté, on pourrait se dire que dans un trimestre, on aura posé des points bas, qu'on repartira à l'ascension courant 2026. C'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du possible. Mais aujourd'hui, on va dire purement statistiquement, je pense qu'il y a, on va dire, allez, entre 10 et 20-30% de chance grand maximum que la chose qui ne s'est jamais passée se réalise en 2026. C'est-à-dire, pour parler factuellement, qu'on avorte un bear market potentiel qu'on a très certainement déjà commencé. Il ne faut pas oublier que quand on fait 125 à 80 sur Bitcoin, c'est une perte en pourcentage qui est très largement, dans la TradFi, qualifiée de bear market. Ce n'est pas juste pour faire ronflant et pour dire ce terme à répétition pour essayer de faire peur à tout le monde. Nous, du côté des créateurs de contenu, plus on vous pousse des contenus qui sont entre guillemets négatifs ou pessimistes, plus vous nous détestez, puisque on n'est pas là pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Alors que les bonnes nouvelles, être permaboule, vous dire sans arrêt, vous rassurer, ok, ça va faire que monter, etc., c'est beaucoup plus vendeur. Les gens sont rassurés et sont dans ce mood où, ok, dans tous les cas, ça va aller, le futur sera bien. Donc, j'essaie de garder malgré tout un optimisme raisonnable pour le futur, tout en vous disant, comme ça, quand il y a du court terme où on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir, de privilégier quelque part l'aspect statistique. Si les statistiques se trompent, et ce cycle de 2024-2025, il y a eu pas mal de statistiques qui se sont trompées, tant mieux pour nous tous, mais c'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête et à prendre en considération. Au niveau des actions américaines, la grande gagnante du jour, c'est Apple, avec potentiellement en 2026 le départ de Tim Cook, qui partirait à la retraite, donc le CEO. Un nouvel ATH à 283 $ et 4200 milliards de capitalisation pour Apple. Pareil, MACD très haut, RSI aux portes du surachat en hebdomadaire. Voilà, tôt ou tard, ça reviendra aux moyennes. Et quand c'était revenu en mars-avril aux moyennes profondes, on était quand même à 170 $ pour Apple et on avait clôturé pile poil sur la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est des titres qui sont très agréables à trader, entre guillemets, ou à renforcer pour ceux qui font de l'investissement long terme, puisque ça a distribué des dividendes à gogo depuis toujours. On avait certes Warren Buffett qui avait allégé considérablement sa position, mais voilà, ça reste une des sociétés les plus robustes avec un buyback énorme, avec un trésor de guerre qui l'est tout autant. Et aujourd'hui, certes, on a des ralentissements sur les ventes d'iPhone, sur les iPads ou sur certains produits qui n'ont pas foncièrement trouvé leur public, comme notamment l'espèce de gros casque de réalité virtuelle. Mais voilà, Apple reste Apple et je pense que pour les prochaines années, voire les prochaines décennies, ils continueront le rouleau compresseur tel qu'ils l'ont fait jusqu'ici. C'est des sociétés qui, à mon sens, peuvent connaître à des moments clés des périodes charnières comme ça où on a un petit peu moins de croissance, un petit peu moins de ventes, etc. Il faudra qu'ils arrivent, comme toute société en haut de l'affiche, à se renouveler constamment. C'est leur principal challenge, quelque part. Mais bon, aujourd'hui, que ça soit au travers des dividendes ou de l'action, quand on regarde comme ça sur des dizaines d'années, je pense que ceux qui sont actionnaires depuis les années 2000, voire avant, de l'action Apple, je pense que la courbe parle plutôt pas mal d'elle-même. Du côté des actions françaises, on a BNP qui, depuis un mois, nous fait un très bon rebond. Depuis les 65 euros, on est à 75. On a un ATH à 85. Pareil, on est plutôt sur une fin de correction d'après les oscillateurs. Donc, c'est plutôt pas mal engagé. Également, au niveau des États-Unis, j'ai oublié de vous en parler, mais il y a l'action MSCI qui correspond à ceux qui éditent beaucoup de titres en bourse et de produits, d'ETF, etc. L'équivalent de Amundi pour la zone européenne. Et donc, MSCI se porte très, très bien pour ceux qui, comme d'habitude, veulent acheter, entre guillemets, le casino. On voit que Amundi, bon, quand on regarde comme ça pour depuis 2022, on est dans un énorme range. On avait fait un point bas en octobre 2022 à 40 euros. Un point haut ici autour de mars 2025 à 76 euros. Donc, ce n'est pas une action qui, fondamentalement, va vous faire des décalages complètement monstres. Il vaut mieux payer les bas de range, bien entendu, que les hauts, comme d'habitude. Mais par contre, c'est stable au long terme. Ça distribue, ça fonctionne très bien. Il continue d'avoir des produits qui engendrent énormément de frais, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, le business model d'un Visa, d'un Mastercard, d'un Amundi, d'un MSCI ou de tous ces éditeurs qui sont ceux qui tiennent quelque part le casino, ça vaut aussi pour les bourses comme ICE, comme le CME du Chicago Mercantile Exchange, le NYSE de New York, ou toutes ces super sociétés qui finalement sont le refuge de la finance moderne. Voilà, je pense que ça en fait des boîtes qui aujourd'hui, bon, comme d'habitude, il faut faire des choix, il faut regarder un petit peu les chiffres dans le détail. Je ne suis pas en train de vous donner une shopping list là à faire juste parce que un random sur un écran vous en a parlé, mais je vous donne des pistes de choses qui peuvent au long terme bétonner un portefeuille. Comme d'habitude, ce n'est pas du conseil. Comme d'habitude aussi, ça ne vous fera pas certainement les performances les plus mirobolantes. Mais comme vous le savez, j'essaie de plus en plus de mon côté de rentrer potentiellement des actions qui, au long terme, offriront quelque chose de sain, quelque chose de stable, avec un bêta de volatilité qui ne sera pas un coup on prend plus 20, un coup on prend moins 40. J'essaie d'avoir quelque chose qui, petit à petit, est vachement robuste. Du côté des altcoins, bon, pour l'instant, comme je disais, c'est trop tôt, à mon sens, pour se positionner immédiatement. On le voit avec NIR, c'est catastrophique. On le voit avec AVAX qui est sous le support des 14-15 $, bien que ça fait 2-3 semaines que ça tient autour des 12 $. On avait méché lors de la fameuse soirée d'octobre à 8,54 $ du côté de Binance, ce qui démontrait une fois de plus que ça faisait partie malheureusement des crypto-monnaies sur lesquelles il manquait peut-être de la liquidité, en tout cas pour le court terme. Injective 5 $, on a eu un top sur ce cycle à 52 divisé par 10, c'est catastrophique, mais c'est à la hauteur du run qu'il a fait aussi, hein, Injective. On a fait un run sur cette crypto de 4600%. Donc, c'est comme d'habitude à mettre en perspective, mais est-ce qu'au long terme, on a envie d'acheter des charts comme ça, avec autant de volatilité, avec une liquidité qui est, pareil, assez anecdotique, puisque on était passé lors de cette fameuse soirée de 13, quasi 14 $ à 2,70 $ pour Injective. Donc, je pense que beaucoup d'acteurs ont totalement sous-estimé ce qui s'est passé à ce moment précis et le traumatisme que ça a engendré et la crise de défiance et de confiance vis-à-vis des altcoins qui pour moi, va continuer de se renforcer au long terme. AAV à 170$, on a la 200 juste en dessous à 135, donc on a un support long terme entre 115 et la 200 qui est à 135, donc pourquoi pas pour tout simplement du DCA. Après, bon, comme d'habitude, pour moi, c'est un peu trop tôt pour se positionner au niveau des alts, vu qu'on ne sait pas trop ce que Bitcoin va nous faire. Si on arrive à le choper sur ce support, ça fera un moins 70%, et au cycle précédent, on avait quand même perdu, je pense, un bon 90% sur AAV, on était à moins 93%. Donc vous voyez que c'est pas parce que sur les gros titres, on perd des 70, 80, 90% qu'on n'arrive pas le cycle suivant à reperformer. Par contre, ceux qui ont acheté du AAV entre 500 et 700 balles à l'époque, là sur ce cycle, le point haut, il a été à 400, donc ils sont toujours sous l'eau. Et pour le moment, ben voilà, on ne sait pas si un jour ils reverront les prix qu'ils avaient à l'époque. Donc ça, c'est vraiment le piège quelque part des altcoins, de se dire que c'est des choses qu'on peut garder au long terme comme on le ferait avec Bitcoin. Il faut surfer des vagues, des tendances sur les alts, soutenir des projets de cœur, pourquoi pas, soutenir des domaines qu'on pense en bonne expansion, mais après, il faut aussi savoir regarder les choses en face, et malheureusement, à ce compte-là, l'univers startup, quelque part, qui est représenté dans le Web 3 face au Web 2, dans lequel ben, déjà 90-95% des startups ne passent pas les 18-24 premiers mois, voire 36 pour les meilleures d'entre elles, eh bien, la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on peut observer aussi en crypto, voire même, je suppose, sans trop m'avancer au bout de 7-8 ans dans cette industrie, que c'est 100 fois pire du côté de la crypto. On doit pouvoir parler d'un 99 bien tassé de projets qui, de 2 ans en 2 ans, vont complètement à la cave. Sauf que on met la plupart du temps 4 ans révolus, un cycle entier, pour s'en rendre compte. Il y a un token de plateforme qui se tient plutôt pas mal, donc au-delà du BNB qui, lui, reste fort à 830$ et pareil, qui est pas très loin d'un support et de la moyenne mobile 50. Donc il a trouvé du support à 800$. Dans l'idéal, ça serait autour de 675, et on a la 200 long terme qui est à 475 pour BNB. Mais je clôturerai donc l'émission avec le Borg qui, ben, petit à petit, mine de rien, est en train de trouver peut-être du support ici autour de l'ensemble des moyennes mobiles. Après, le seul truc, c'est la liquidité qui, ben, potentiellement, pour un token qui n'est pas listé partout, pourrait avoir comme ça des problèmes de décalage ou de slippage en fonction de ce qui est échangé. Donc c'est beaucoup de choses qui aujourd'hui nous amènent justement à nous écarter petit à petit des altcoins, malheureusement, parce que ça devient beaucoup trop difficile de savoir exactement quelle est la liquidité, quelle est la profondeur, comment vont réagir à la fois les market makers, les participants, est-ce qu'il y a une communauté soudée derrière, est-ce qu'on va avoir un drama, ou est-ce qu'au contraire on a une hype comme on l'a eu sur Hype, sur Hyperliquid, sur ce cycle. Ça ne veut pas pour ainsi dire que sur le cycle suivant, ça sera toujours Hype qui sera le grand gagnant, bien loin de là. Et donc on clôturera pour de bon ce coup-ci avec le Topix, donc, qui pour l'instant, pareil, se cherche sur des points hauts, et le Japon et l'Asie plus globalement, comme vous le savez, qui sont désormais sur cette problématique et scrutée à la loupe par l'économie traditionnelle mondiale, de savoir finalement ce que pourrait engendrer un Yen Carry Trade Bis. Après, je suppose que ce fameux 5 août 2024, ça leur a permis quand même depuis un an et demi de prendre les dispositions qui s'en suivaient et de petit à petit, tout simplement flush, on appelle ça déboucler des positions ou unwind dans le marché traditionnel. Toutes ces positions un peu trop prises à levier certainement sur cette possibilité qu'offrait le Japon d'emprunter beaucoup d'argent à taux zéro, c'était assez fou pour le coup. Et donc aujourd'hui, on a un retour à la réalité. Ce retour à la réalité, c'est pour nous en crypto, est-ce qu'on va avoir un marché US, puisque ça reste le moteur de l'économie mondiale, qui se grippe un petit peu en 2026 et qui pourra avoir des effets complètement néfastes jusqu'aux crypto, vous vous en doutez bien. On est encore un petit peu loin, je pense, aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face, d'avoir un marché qui vit par lui et pour lui. En tout cas, peut-être que Bitcoin est en train de le faire doucement mais sûrement, mais en termes d'industrie, on en est encore loin. Soyons prudents aux abords de cette année 2026, tout en nous disant que si on nous offre du Bitcoin à 50 000, je serai le premier ravi de pouvoir me positionner sur ces prix-là, après avoir vu un top de cycle à 125-126. Ça semblera pas si déconnant, et tout en ayant bien en tête que tout comme les 150-200 000 du point haut qu'on espérait sur ce cycle, peut-être certains même 300, 400, 500 000, mais voilà, on a quand même été sur la chaîne, je pense, parmi les plus raisonnables, à viser entre 80, 100 à 100, 150, grand maximum, et encore que les 150, on a vu en cours de route que c'était complicado. Donc aujourd'hui, voilà, si on revoit un Bitcoin à 50 000, probablement que si on se fait un petit calcul d'apothicaire de ne serait-ce que le voir au cycle suivant à 150-200, ça fait des multiples qui sont tout à fait raisonnables à aller chercher et qui, d'un point de vue de la gestion du risque, le seront tout autant comparativement à ceux qui rentraient comme ça à fond perdu et à tombeau ouvert autour des 100 000 et plus. Voilà, le risque, l'asymétrie, comme d'habitude, se juge à la pertinence que vous allez pouvoir déployer de votre côté, de ce que vous risquez à chaque euro que vous déployez sur les marchés et ce que vous pouvez en retirer derrière. Je vous souhaite une excellente journée. Du coup, on se retrouvera probablement pas demain. Vous avez eu l'émission aujourd'hui que vous auriez dû avoir demain. J'essaie de faire aussi de mon côté en fonction du flux d'infos et du mood, puisqu'il y a parfois des moments où nous aussi, de notre côté, en tant que créateur de contenu, on n'a pas forcément tous les jours envie de faire ce qu'on fait. C'est normal, comme dans n'importe quel boulot. Et je pense aussi qu'on minimise énormément le fait que en étant totalement impliqué dans les marchés financiers, on est tout aussi impacté de notre côté, et c'est ce qu'ont tendance à oublier certaines communautés, et notamment parfois des personnes qui se transforment en puissants fonds de toxicité, le fait qu'on est malgré tout nous-mêmes de façon assez permanente exposé à l'ensemble des marchés, ce qui fait que premièrement, on est tous un peu dans le même bateau, peu importe qu'on ait 1000 euros ou 10 000 euros ou 100 000 euros dans le game, et derrière ça engendre certainement beaucoup de frustration parfois, bien que du côté de la communauté CM, fondamentalement, on n'a pas grand-chose à redire. Ces 2, 3, 4 dernières années, on a essayé d'être le plus coulé possible, d'être peut-être aussi parfois le plus lisse possible. On n'a pas présenté de grands projets, de grandes révolutions ou de grands narratifs, ce qui très certainement nous a peut-être aussi permis de ne pas être dans cette fuite en avant telle qu'on l'était en 2020-2021 et de prendre du recul au moment où tout le monde n'était pas encore à même d'en prendre. Donc j'espère, comme d'habitude, que cette émission vous aide au quotidien à y voir un petit peu plus clair. Le but, c'est pas d'avoir raison. Est-ce que 2026 me donnera les 50 000 que j'espère? J'en ai strictement aucune idée. Mais en attendant, je m'y serai préparé, et si jamais l'opportunité se présente, nous serons à même de nous positionner au bon endroit et au bon moment. Et si jamais le marché repart avant, comme d'habitude, le but, c'est de continuer le petit DCA pour ceux qui font du DCA, et de viser pour ceux qui sont rentrés là courant 2025, dans tous les cas, cet horizon de temps de 2, 3, 4 ans pour à minima en voir quelque chose de positif sur un marché qui a tendance malgré tout au niveau de sa rotation de nous faire comme ça des poussées qui se passent de 12 mois en 24 mois. Et c'est à peu près pareil en général pour les baisses où on pourrait viser si jamais c'est le bear market en 2026, l'apogée ou le point bas futur de bear market autour de l'automne 2026 au moment des midterms de Trump, c'est-à-dire dans un an de temps à partir de maintenant, voire même un petit peu moins d'un an, vu qu'on vient de passer en décembre. Je vous souhaite une excellente journée, émission un peu à rallonge, peut-être un peu plus de blabla que d'habitude, mais je pense que c'est des moments qui sont importants, c'est des moments aussi qui vous permettent, vous, de vous poser de votre côté et de réfléchir un petit peu. Parfois, au cours des vacances de décembre, il y a aussi les cadeaux, etc. On n'a pas forcément la tête à être sur les graphiques, mais je pense aussi que pour ceux qui fournissent cet effort aujourd'hui, de se poser même une après-midi, une heure, deux heures, trois heures, et de vous faire un plan pour toute votre année 2026, voire au-delà, vous verrez que par la suite, vous aurez les idées beaucoup plus claires et vous serez beaucoup plus serein sur l'ensemble des marchés, d'autant plus que le marché crypto nous aura démontré 2025 à l'appui qu'il est loin d'être aussi facile, entre guillemets, que ce qu'il nous avait habitué par le passé au niveau de la volatilité et des gains qu'on aurait pu espérer. Très bonne journée, et je vous dis à la fin de semaine, mis à part s'il se passe quelque chose d'extraordinaire entre-temps. Ciao, ciao.